je démarre une nouvelle série en même temps. Il me reste pas non plus des masses de temps. Donc, et je suis allé sur le site, un site que j'aime bien, de l'AELF, l'Association Épiscopalienne Liturgique Francophone. C'est des lectionnaires catholiques. Et je suis tombé sur un choix de textes, une triade de textes très, très bien faite, qui m'a tout de suite inspiré et qui m'a donné l'idée d'une nouvelle petite série, une mini-série, que j'appelle une série, enfin c'est la triple vocation. Pour ceux qui viennent aux études bibliques, vous m'aurez entendu vous rabâcher ça pendant presque 9 années, de la triple vocation. Hein, il s'agit d'être prêtre, prophète et roi. Régner, être en communion et cultiver la terre. Et justement, vous allez voir que le choix des textes d'aujourd'hui s'adresse à une de ces trois vocations. Et j'ai envie de vous encourager, j'aimerais qu'on prenne de la perspective, de la profondeur par rapport à ces vocations et qu'on voit comment est-ce qu'on est appelé en Christ à aller vivre encore plus dans la grâce. Mais du coup, non pas avec plus de légèreté, mais au contraire avec plus de dévotion, parce qu'il y a le filet de la grâce et on peut y aller à fond. Voilà, donc je vous propose de commencer avec Exode chapitre 19. On va lire le tout début, mais je vous situe un petit peu historiquement ce texte de Exode chapitre 19. Donc, on est où ? Le grand affrontement, le grand bras de fer entre Dieu et le pharaon d'Égypte a eu lieu à travers Moïse, qui était le champion envoyé par Dieu, et Dieu a gagné le bras de fer. Bon, à grand prix, puisqu'il a fallu quand même qu'il pousse le bouchon très loin avec les 10 plaies d'Égypte. Il emmène le peuple qui échappe à l'armée du pharaon en traversant la mer, qui s'est ouverte sur eux, mais qui s'est refermée sur l'armée du pharaon. Et de là, il chemine quelques dizaines de jours dans le désert jusqu'à arriver au mont Sinaï. D'accord ? Le mont Sinaï, le mont Horeb. Et c'est là que Dieu va lui offrir, lui proposer, l'inviter à rentrer dans une alliance avec lui. D'accord ? Il est le peuple qui est le descendant d'Abraham, avec qui Dieu avait vraiment passé un pacte profond. D'accord ? Ils ont passé 400 ans en Égypte, un peu comme dans une pouponnière, pour que ce petit groupe de personnes, d'une quelques centaines de personnes, devienne un peuple de milliers, de centaines de milliers, et donc peut-être même de millions, je ne sais pas trop. Et puis, maintenant que c'est un peuple, Dieu va se proposer à être leur roi, leur guide, et il leur offre une alliance. Et on va lire ce moment-là. D'accord ? Le troisième mois, après leur sortie d'Égypte, les Israélites arrivèrent ce jour-là au désert du Sinaï. Partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert du Sinaï et campèrent dans le désert. Israël campa là, vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu, l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant « Voici ce que tu diras à la maison de Jacob et que tu annonceras aux Israélites. Vous avez vu vous-même ce que j'ai fait à l'Égypte. Je vous ai porté sur des ailes d'aigle et fait venir vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en propre entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Mais quant à vous, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux Israélites. Et je vais m'arrêter là. Deuxième texte pour faire écho avec celui-là se trouve dans le psaume numéro 100. Lance une joyeuse clameur vers l'Éternel, terre entière. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec des acclamations dans sa présence et reconnaissez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait. Nous sommes à lui, son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec de la reconnaissance, dans ses parties avec la louange, avec la louange. Célébrez-le et bénissez son nom, car l'Éternel est sa bienveillance durera toujours et sa fidélité de génération en génération. On va garder le troisième texte pour plus tard, il se trouvera dans 1 Pierre, chapitre 2, et fera écho avec la liturgie de Jaco, parce que tout est bien fait. On voit clairement que Dieu invite ce peuple-là à rentrer dans une relation avec lui, plus proche, exclusive, spéciale, et qu'il va acquérir un statut, à ses yeux, différent. Dans le texte hébreu, si vous voulez, Israël va devenir un trésor. Il va devenir comme une pierre précieuse, comme quelque chose qui a un prix, qui le distingue des autres peuples, par cette relation d'alliance avec lui. Et on peut se demander pourquoi est-ce que Dieu invite ce peuple à devenir saint ? Saint, pareil, vous m'avez entendu le dire je ne sais pas combien de fois pendant les 9 années, c'est être mis à part pour. D'accord ? Quand on est saint, on a un traitement spécial dans un but spécial. D'accord ? Le couteau à pain, la plupart du temps, est saint. Il a un traitement spécial, c'est-à-dire qu'on s'en sert que pour le pain. On ne s'en sert pas pour tailler un morceau de bois ou quoi que ce soit, même s'il a des petites scies. Il est mis à part pour. D'accord ? L'éponge à vaisselle est sainte, on ne s'en sert pas pour nettoyer. Voilà, j'ai marché dans la terre, par terre. Je n'ai pas utilisé l'éponge à vaisselle pour ça. Elle est mise à part pour. D'accord ? Cristiano Ronaldo se sanctifie pour son sport. Quotidiennement, il suit des régimes, il évite certaines choses et il pratique d'autres choses afin de pouvoir avoir les performances qu'il a. Il vit une vie sanctifiée, mise à part. Mais on n'est pas sanctifié pour être sanctifié, on est toujours sanctifié pour un but précis. D'accord ? C'est pas je vais décider que Laura, elle va être spéciale, parce qu'elle va être spéciale. Hein ? C'est un peu comme la ferme des animaux. Tous les animaux naissent égaux, mais certains animaux étaient plus égaux que d'autres. Juste comme ça. Non, on ne se distingue pas juste pour être distingué. Dieu ne nous sanctifie pas juste pour nous sanctifier. Il y a toujours un but, une visée. D'accord ? Et dans le cas qui nous concerne là, Dieu voulait faire de ce peuple-là un peuple de prêtres. Vous avez vu ? Un peuple de prêtres. Puis ça va mal se passer. Ça. Il va y avoir besoin d'arranger les choses et finalement il y aura au sein du peuple un peuple de prêtres. Il y aura une tribu d'Israël qui va servir de prêtrise pour toutes les autres tribus parce que peut-être la barre est trop haute. En tout cas, c'est quand même l'appel de Dieu. Venez à moi, entrez dans mon alliance avec moi et vous serez une nation entière de prêtres pour moi. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un prêtre ? Je vous pose la question. C'est quoi le boulot du prêtre ? Il enseigne le peuple. Ok. Il transmet la parole de Dieu au peuple. Ok. La loi. Quoi d'autre ? La purification des péchés. Ouais, il expie les péchés. Comment ? En tuant un animal. Donc il fait des sacrifices. Il fait beaucoup de sacrifices. Le grand boulot du prêtre, c'est de pratiquer des sacrifices. Sacrifices de reconnaissance, pour dire merci. Des sacrifices pour la purification, d'accord ? Des holocaustes, tout ça. Beaucoup de sacrifices, le prêtre. Ok, il enseigne, il fait des sacrifices. Il s'occupe de quoi, en fait ? Du temple, de la maison de Dieu. Et pourquoi est-ce qu'il faut qu'il y ait un temple ? Voilà, et donc, le prêtre, il s'occupe du temple de la maison de Dieu, il s'occupe des sacrifices pour le pardon entre le peuple et Dieu. C'est quoi son domaine de compétence, en fait? Voilà. C'est celui qui travaille, qui est occupé, qui est consacré à la relation entre le peuple et Dieu. Il enseigne le peuple, il rappelle les lois pour que le peuple sache comment être cette nation sainte. Et quand le peuple part dans le décor, il est là pour apporter des sacrifices et conduire le peuple à la repentance et toujours restaurer ce lien entre le peuple et Dieu. Et puis, quand ça va bien, il conduit le peuple dans les fêtes, dans les commémorations, et il garde la maison de Dieu propre et accessible pour le peuple, pour que ce lien entre Dieu et son peuple demeure. Ça va ? Le prêtre, c'est le chargé de relations entre Dieu et le peuple. Mais alors, si nous sommes une nation de prêtres, on va pas aller trop vite, mais vous me voyez venir que nous aussi on va devenir comme ça, mais si Israël est une nation de prêtres, une nation sainte, ils vont faire le boulot de relation entre qui et qui? Je vous pose la question. Entre toute l'humanité et Dieu. Tous les humains sont appelés à rencontrer, à venir, et c'est ce que nous dit ce psaume 100, à venir connaître ce Dieu, le Dieu vivant, en passant par cette nation. D'accord? Donc elle doit être accueillante, elle doit être bienveillante envers les étrangers, elle doit être ouverte, elle doit avoir envie d'annoncer et de parler de son Dieu à tous, et surtout elle doit vivre ce qu'elle croit, elle doit vivre ce qu'elle proclame pour qu'en la voyant, on se dise « Ah mais tiens, le Dieu de ce peuple, il est étonnant. » D'accord ? Et là on trouve un peu écho avec la liturgie de Jaco. Vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Du monde et de la terre. D'accord ? Une nation de prêtres. Voilà ce à quoi était appelé tout le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament. Je ne vous fais pas un détail, mais ça s'est mal passé. Ça s'est plutôt mal passé, et un peu tout le temps. Il y a eu quelques moments de lumière et de grâce, mais la plupart du temps, le peuple, il s'est bien souvenu que être saint, c'est être mis à part, être rendu spécial. Mais il a gommé la fin pour. Et il s'est juste cru spécial. Et parce que je suis spécial, j'ai le droit à. Et parce qu'on est spécial. Mais en fait, il n'a pas associé ce fait d'être distingué pour Dieu avec la mission qui va avec. Et il a oublié la mission. Et plutôt que de chercher à être un phare, une lumière qui reflète, comme une espèce de grand miroir qui reflète la lumière de Dieu sur les nations, il a plutôt cherché à prendre tout ce qu'il y avait de mieux dans les nations avoisinantes. Au lieu d'être un thermostat qui règle la température de la pièce, plutôt était un thermomètre qui s'adapte à la température qu'il y avait autour de lui. Maintenant, Dieu a choisi un autre peuple. Enfin, pas vraiment un autre peuple. Disons que Christ est devenu le nouvel Israël. Christ est devenu le nouveau source du peuple. Et le peuple que nous sommes aujourd'hui, nous sommes issus de Christ. Issus de lui. Et aujourd'hui, la vocation qui incombait au peuple d'Israël, elle est devenue aussi la nôtre. Et ça, on va le lire dans donc 1 Pierre au chapitre 2. Et encore, ça fait écho avec ce que Jaco nous a lu. Approchez-vous de lui, je lis au verset 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Donc la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, c'est Jésus. et nous on s'approche de cette pierre vivante. Et vous-même, comme des pierres vivantes, parce que si Christ est une pierre vivante, nous aussi nous sommes des pierres vivantes, édifiez-vous vous-même pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, en vue d'offrir des sacrifices agréables à Dieu par Jésus-Christ. Donc, Christ est la pierre vivante, rejetée mais choisie devant Dieu, et nous, qui sommes aussi des pierres, on va s'agencer à partir de lui. Hein ? Guillaume, une fois, nous avait fait un petit cours avec Gérard Bosse sur la pierre d'angle, en nous disant que, voilà, on va construire la maison à partir d'elle. On va prendre les mesures à partir d'elle, elle va devenir le point de référence pour tout l'édifice. Et donc les autres pierres ne se mêlent pas où elles veulent, elles se placent en fonction de là où a été placée la pierre angulaire. Et là, c'est ce que Pierre nous appelle à faire. Voici, je pose en Sion une pierre angulaire choisie et précieuse. Celui qui croit en elle ne sera pas confus. L'honneur est donc pour vous, dit Pierre, vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale, celle de l'angle, et une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Ils s'y achoppent en désobéissant à la parole, et c'est à quoi ils ont été destinés. Vous, par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Vous voyez que dans ses propos, l'apôtre Pierre, il transpose complètement ce qu'on a lu dans le chapitre 19 d'Exode à nous. Il écrit que voilà, la mission qui était celle du peuple juif dans l'Ancien Testament, aujourd'hui, elle a été étendue à tous les chrétiens. Tous les chrétiens. Et ce service de relation entre l'humanité et Dieu, aujourd'hui, il nous incombe. C'est à vous et à nous de le vivre. Sur quoi se base-t-il ? Nous sommes un peuple qui a reçu la miséricorde. C'est ce que Pierre résume au verset 10. Vous n'étiez pas un peuple et maintenant vous êtes rassemblés en un peuple. Et vous n'aviez pas reçu miséricorde et maintenant vous avez reçu miséricorde. Le plus compliqué dans nos relations, dans les relations entre nous et Dieu, hein, mais aussi dans les relations entre nous, puis dans nos relations avec les autres, le plus compliqué, c'est le pardon. La base de tout, c'est le pardon. Notre Père, que nous prions régulièrement, peut-être certains d'entre vous quotidiennement, dit « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Nous recevons le pardon de Dieu, nous nous savons pardonner par Dieu. La liturgie que nous vivons chaque dimanche ne vient pas nous accorder l'absolution, mais vient nous rappeler. Et souviens-toi, si tu as reçu l'Esprit de Dieu, le pardon de Dieu t'est garanti. C'est pas « pense bien à utiliser ton pardon aujourd'hui, comme si on utilisait un remède qu'on devait prendre chaque jour ». Non, non. C'est souviens-toi que maintenant, ton état, là où tu demeures, l'air que tu respires, c'est le pardon de Dieu permanent. Je vous avais donné cette image que Dieu dresse entre lui et vous un tapis rouge sang et vous demande de vous approcher de lui en marchant sur ce tapis. Le pardon de Dieu n'est pas quelque chose que j'utilise à l'occasion quand j'ai péché. Le pardon de Dieu est quelque chose sur lequel je marche constamment. Le pardon de Dieu est quelque chose dans lequel je demeure. Demeurez en moi comme moi en vous, dit Jésus. C'est un état, ce n'est pas un outil. C'est un statut, d'accord ? Ce n'est pas quelque chose que l'on prend puis que l'on repose. Et cette grâce, ce pardon qui fait que Dieu m'accepte tel que je suis, que Dieu me regarde comme un prêtre, une prêtresse, portant son nom et agissant de sa part comme son référent, alors que entre vous et moi, j'en suis pas complètement digne, c'est la grâce, le pardon. Et ce pardon et cette grâce que je vis quotidiennement, je suis appelé à deux choses, même trois, en tant que prêtre. D'abord à ne pas le refuser, moi, à ceux qui m'ont offensé. Ça ne veut pas dire faire la carpette, ça ne veut pas dire dire oui et amen à tout, ça ne veut pas dire que quoi qu'on me fasse, ce n'est pas grave. Mais je n'ai pas le temps de développer. Mais le pardon que j'ai reçu de Dieu, je ne peux pas le refuser. Et si je n'arrive pas à le donner maintenant, il faut au moins que devant moi, quelque part sur mon chemin, je me dise, il faut qu'un jour j'arrive à le donner. Au moins. Le pardon de Dieu que j'ai reçu, je le donne aux autres. Mais le pardon de Dieu que j'ai reçu, je l'annonce aux autres. Est-ce que vous savez que Dieu peut vous pardonner ? Je le rappelle à mes frères et sœurs. Vous avez peut-être déjà croisé sur votre route ou ici à l'église des frères et sœurs, accablés par eux-mêmes, écrasés par ce qui se passe dans leur vie. Qui d'autre mieux que vous pouvez leur redire ces paroles ? Mais tu sais que tu demeures dans la grâce. Tu sais que tu marches dans le pardon. Et donc, que le regard du Seigneur sur toi n'a pas changé. Le pardon que vous avez reçu, vous le rappelez aussi aux autres. Et vous, même, peut-être l'annoncer à ceux qui ne le connaissent pas. Si vous avez cet appel un peu en vous. Et puis, ce pardon que vous avez reçu, vous ramenez les autres prêtres et prêtresses, les autres chrétiens autour de vous, à le vivre. Attention, là tu t'endurcis. Attention, tu es en train de faire mijoter l'amertume. Tu es en train de faire mijoter la colère. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il leur a donné trois vocations, de régner sur tout le vivant, de se multiplier pour remplir la terre d'une grande communauté humaine et de cultiver le jardin. Cette vocation-là de la prêtrise, du pardon, elle vient toucher la deuxième chose, la grande communauté que nous engendrons. Vous, frères et sœurs, vous êtes appelés à être des artisans de paix. Des artisans de paix. Des réconciliateurs. Des réparateurs de brèches. Des apaiseurs de situations qui partent en live. On n'est pas appelé à ajouter de l'huile sur le feu. On n'est pas appelé à faire passer les ragots, les commérages. On est des soigneurs de relations. On est des retisseurs de communion. On est des prêtres et des prêtresses. C'est une grande vocation. Et notre monde en a particulièrement besoin, peut-être en ce moment, où je trouve que vivre un désaccord paisiblement devient compliqué. Où je trouve que le cercle des personnes qu'on supporte est parfois, je trouve, un peu de plus en plus étriqué auprès des gens. Rencontrer des nouveaux visages, se mettre en lien avec des personnes qui n'ont rien à voir avec nous, n'est pas toujours facile. Le temps qu'on passe parfois sur les écrans ne nous aide pas à augmenter notre capital social. Bientôt, les intelligences artificielles seront des interfaces quotidienne et subitement un humain qui n'est pas d'accord et qui l'exprime peut-être un peu trop frontalement nous surprendra. Vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas en train de réconcilier la machine avec le divin, mais les créatures de Dieu, les images de Dieu avec le Seigneur. Vous connaissez ce passage dans 2 Corinthiens 5 ? Car Dieu était en Christ, il était caché en Christ, réconciliant le monde avec lui-même et ne tenant pas compte du péché des hommes. Il a mis en nous le ministère de la réconciliation. C'est comme si Dieu s'exprimait à travers nous en disant « Nous vous en supplions au nom du Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Mais on l'a dit, un prêtre, il s'occupe de la relation entre Dieu et le peuple, la relation au sein des hommes aussi, mais il fait des sacrifices normalement, non ? Mais quel sacrifice nous pourrions offrir à Dieu alors que Dieu a offert en sacrifice son propre Fils ? Qu'est-ce que nous pourrions faire de plus que cela ? Paul, l'apôtre, le résume en une cuillère, en une bouchée, en Romains 12. Où il dit « Je vous exhorte donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Alors, on n'est pas en train de vous demander de vous immoler, de vous égorger sur un autel ou de vous asperger de sang et de vous allumer sur la place publique. Ce rôle-là, Christ l'a déjà embrassé pour nous, de donner sa vie, et plus personne n'est appelé à le faire pour accomplir du pardon. Si quelqu'un voudrait se sacrifier pour apporter encore du pardon sur la terre, ça voudrait dire qu'il croit que le sacrifice de Christ n'est pas vraiment complet. Or, je pense qu'il est parfait, que le Fils de Dieu qui donne sa vie accordera la grâce à tous ceux qui veulent la grâce et qu'il n'en manquera pas. Mais c'est intéressant de voir que le sacrifice qu'on est appelé à apporter, c'est nos corps, notre vie. Et c'est intéressant parce que, vous voyez, Jésus, il est celui qui est le sacrificateur aussi. Et puis le sacrifice que ce sacrificateur apporte, c'est lui-même aussi. Si vous lisez la lettre un petit peu compliquée de l'Épître aux Hébreux, vous verrez ça très clairement qu'il est le sacrificateur et il est aussi l'offrande, le sacrifice. Et quelque part, nous sommes appelés à faire pareil, à devenir comme des prêtres pour la réconciliation. Et par quel moyen ? Eh bien, par notre vie. Par notre vie. Peut-être pas, peut-être même plus par votre vie que par vos mots et vos gestes. Peut-être plus par notre vie que par nos mots et nos gestes. Mais attention, il faut que ce soit un sacrifice volontaire. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Dans sa lettre, dans l'épître de Jean, Jésus, le roi, le modèle, celui qu'on imite, d'accord, il dit, le Père, il m'aime parce que je donne ma vie. Il ajoute juste après, personne ne me l'ôte, personne ne me l'ôte, c'est moi qui la donne. Je vous l'ai déjà dit la semaine dernière, je crois, mais je le redis, c'est important. Donc si je veux devenir ce sacrifice vivant, vivre pour le Seigneur et consacrer ma vie en tant que prêtre, je dois lui donner ma vie, et donc vous comprenez bien la logique que ça va être de la donner pour les autres, mais attention, personne ne vous la prend. Personne ne vous tord le bras pour vous obliger à. Personne ne vous fait du chantage pour vous contraindre à. Personne ne vous instrumentalise dans la grâce. Ah, mais toi t'es chrétien, tu devrais pardonner quand même. Ou alors avec tout ce que je souffre, tu vois pas que ma situation est pire que la tienne, comment peux-tu me dire non ? En plus, tu crois en Jésus ? Ah oui, d'accord. L'amour chrétien, ok, je vois. On peut être des cibles faciles. Mais le Seigneur nous appelle à l'imiter, et donc si nous offrons nos vies, nous les offrons volontairement, librement. Nous ne nous laissons pas piétiner. Le Seigneur, quand il s'est laissé dépouiller, flageller, conduire jusqu'à la croix, à aucun moment il a perdu la maîtrise de la situation. Et d'un claquement de doigts, il faisait venir 12 cohortes d'anges, il réglait le problème, mais ça aurait été à la manière du monde et pas à la manière du royaume, alors il ne l'a pas fait. Nous aussi, nous devons apprendre. Et peut-être pour certains, ça va être de lever le nez du guidon et de commencer à regarder un peu autour de soi et à se dire « Ok, il ne s'agit pas que de moi. Je suis un peuple, je fais partie du peuple. » Et celles et ceux qui sont autour de moi, eh bien c'est vers eux que je suis appelé à être une bénédiction et à porter la paix, la réconciliation, à retisser des liens parfois brisés ou à parfumer cette ambiance au repas familial avec de la douceur, de la légèreté, de l'amour quand c'est un peu tendu, à accompagner ceux qui sont en colère pour peut-être être le crachoir de leur colère et de leur amertume, et pas quelqu'un d'autre. Puis pour d'autres personnes, il faudra peut-être commencer par apprendre à dire non. Pour d'autres personnes, pour devenir ce sacrifice vivant pour le Seigneur, il faudra peut-être commencer par posséder sa vie. Parce que si je ne la possède pas, je ne peux pas la donner. Et peut-être qu'il faut que m'en réempare. Et peut-être qu'il y a des relations où je me suis fait harponner, hameçonner, et j'arrive plus forcément à me sentir libre vis-à-vis de certaines personnes, parce que culpabilité, chantage, dette. Comment donner ma vie librement comme Jésus, sans que personne ne me l'ôte alors ? Mais, une fois que vous l'avez récupérée, au nom du Christ, donnez-la. Ne la gardez pas pour vous. Nous sommes appelés à une vie profonde. Nous sommes appelés à une vie qui a du sens. Que ce soit dans mon foyer, dans ma coloc, au boulot, dans mon quartier, dans mon église. Vous appartenez forcément à un groupe, à des gens, à une famille. Et souvenez-vous que vous êtes des prêtresses et des prêtres du Très-Haut, appelés à être des artisans de paix, à retisser les liens, à appeler à la réconciliation. Parce que le Dieu créateur de ce monde, qui voit tout ce qu'on en fait chaque jour, avec à allumer l'actualité pendant 10 minutes pour voir un peu ce qui se passe, ce Dieu nous accorde son pardon et sa réconciliation. Et nous sommes les canaux, les tuyaux, les passeurs, le moyen par lequel il a choisi que cette grâce soit annoncée et répandue dans ce monde. Donc je relis ce passage en 2 Corinthiens 5 que j'aime beaucoup. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux hommes et aux femmes de leurs fautes. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom du Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. La semaine prochaine, je ferai donc... le règne, qu'on a déjà un peu abordé là avec le fait d'être libre, et aussi la prophétie, le fait d'être prophète, de révéler Dieu par nos œuvres et nos vies.